chute d'un bourdon. Mère Machine, grande réparatrice et endormeuse des corps, et Père Machin, petit arrangeur et consolateur des âmes, à la seconde où j'arrivais au bout de la traversée d'une heure qui était peut-être déjà mon avant-dernière heure, et grâce à de prétendus expiatoires hurlements inhumains parvenus jusqu'à moi par un tunnel creusé à travers le ciel, j'apprenais que vous ne pourriez plus jamais m'entendre ni me répondre, et je recommençais à penser à ce que je vous dirais encore, si je vous apercevais pour la véritable dernière de toutes les fausses dernières fois, au-delà de ce qui était peut-être déjà le dernier nuage de la vaporeuse et apaisante brume blanche, et au-delà d'un ultime souffle du verbe et d'une pluie de tous les adverbes, après tout ce que je ne vous disais jamais, parce que je ne savais pas encore imiter le perroquet inventeur d'une inimitable litanie, et que j'ignorais encore que je pouvais moi-même inventer ce qu'il aurait pu malhonnêtement adroitement ou honnêtement maladroitement dire en essayant de ne jamais le redire. Alors que je participais à la chute d'un monde où je ne pouvais plus vivre avec l'espoir d'être sauvé, ni pour espérer avoir encore la force de sauver une âme prisonnière dans mon corps et de l'envoyer délivrer une autre âme enfermée dans un autre corps, le cœur du temps était une fleur qui ne cessait jamais de s'ouvrir et de se fermer. Et entre les dernières pluies vivantes autour de moi et qui étaient encore les tranquilles pluies qui adoraient la terre et ne seraient jamais salement confondues avec des pluies de larmes d'adoration, je voyais qu'à la fin de l'inimaginable unique seconde et dans l'épanouissement d'une seule seconde en un éclair fleuri, une fleur de temps cesserait de se refermer et de se rouvrir et que je pourrais peut-être enfin commencer à chanter le regret de la bienheureuse et solitaire île de ma vie, resplendissante encore quand j'étais devenu une triste machine de bonheur capable de rassembler en elle les innombrables nœuds d'inextricables matières jouisseuses d'elle-même et qui s'étaient usées jusqu'à la transparence d'une imperceptible détérioration pour dissimuler que le véritable cœur de ce que je croyais encore être le nœud essentiel de mon unique existence était lui-même caché dans une joyeuse machine de malheur. Et je ne voulais pas essayer de sauver un espoir qui suppliait le désespoir de venir à son secours, quand je pouvais encore oser arranger la pensée de ce que je venais de penser, au moment où j'osais m'avouer que je ne savais déjà plus si avant d'être un engin à produire de la joie et implanté dans un appareil à fabriquer de la tristesse, j'avais été sélectionné parmi des débris encore charnels ou maquillé et refabriqué par un de ces grands prêtres techniciens, menteurs et maquilleurs, enragés et enrageurs, à force de maquiller et de mentir pour s'élever hors de leurs plus profonds mensonges et se laisser retomber dans leur unique noire vérité. Et moi aussi, j'étais déjà retombé dans ma sombre et pourtant si bienheureuse vérité, quand après m'être forcé à voter en faveur d'un nouveau nom prouvant que je n'étais pas une aberrante créature toute nouvellement baptisée, j'avais pensé que je voterais une deuxième fois et même une troisième, pour être nommé Machinon, ou plutôt surnommé Machinoyon, parce qu'avant d'être une petite machine, j'étais un minuscule animal de genre humain, appartenant à un quelconque sous-groupe rassemblant certains mâles autour d'un de leurs congénères, et toujours caché sous le centre de l'ombre d'un arbre, pendant les jours où il était possible de se glisser sous le centre du nombre, avec dans tout le corps la froide sensation d'être perpétuellement caché et né pour être toujours caché, et qui alors s'efforçait de ne pas exhiber avec quel mépris il aurait été capable d'assumer la fonction de procréateur s'il n'avait pas eu conscience qu'il ne serait bientôt qu'une intelligente machine dissimulée à l'intérieur d'une effroyablement clairement inintelligible machine déréglée et prévoyant de penser toujours à la fois vers en avant et vers en arrière pour justifier et glorifier son propre dérèglement en le mélangeant au glorieux dérèglement général. Certains jours, à l'époque de mon apprentissage de prétendue machine spirituelle vivante où j'aurais tant voulu aimer décrire chaque geste que je faisais et exprimer chaque pensée qui passait en moi pendant même que j'agissais et pensais et en ne repoussant pas ce qui malgré moi venait penser en moi, je me promettais d'embellir jusqu'au dernier mot de mon dernier jour la certitude que je ne pourrais jamais revivre une autre vie en décrivant ce que je vivais quand je tentais de précipiter hors de ma mémoire toute l'illusion de ce que j'avais déjà vécu. En peu d'années, j'étais forcé de comprendre qu'une substance étrangère à mon corps lui devenait de plus en plus familière, en le solidifiant pour le préparer à recevoir la seule récompense encore autorisée et qui était la voix de la récompense elle-même, recommençant à m'annoncer avec d'intraduisibles mélodies animales pendant d'innombrables nuits au cours de toutes les phases de sommeil et jusque dans certains recoins interdits du seul rêve encore possible et du dernier cauchemar perceptible, que mon corps était officiellement reconnu comme idéalement conçu pour héberger un esprit capable de s'opposer indifféremment à tous les ordres. Ainsi s'élevait jusqu'à moi, au matin d'une nuit où il me semblait revivre la plus intense de toutes les phases d'un sommeil éducatif ressenti parfois comme déjà sans fin, la certitude que j'étais vraiment celui qui était bercé pour la première fois par la voix de celle qui se présentait comme ma principale réparatrice, alors qu'elle méritait d'être désignée comme ma véritable créatrice que je devrais désormais nommer le plus rarement possible en moi-même, mon employeuse invisible, et que j'imaginais semblable à la synthétique imitation de la plus belle de toutes les reproductions du miraculeux cadavre à la bouche cendrée, qui soudain s'animait avec la souplesse d'une rêveuse s'éveillant et retrouvant son corps dans une nuée de poudre blanche, redescendant doucement sur la blancheur de sa couche. Et sur les hauteurs de ce matin, d'où je voyais disparaître en essaim des ordres furieux auxquels personne n'avait jamais obéi, ni désobéi, je comprenais que jamais je ne serais forcé de laisser pourrir dans ma mémoire le souvenir de lèvres intouchées et intouchables, tout en pressentant que je ne pourrais jamais revoir ces lèvres, autrement qu'avec le regard déjà étranger de leur inventeur, ayant lui-même ordonné à ces lèvres de se mouvoir pour laisser passer les paroles qui auraient pu être mes propres paroles, disant que mon âme n'était pas l'égale d'une autre âme, et qu'elle était comme toutes les âmes, douée du pouvoir d'obéir à tous les ordres venus d'en haut et à aucun ordre venu d'en bas. Alors, désormais, et dans la dimension d'un temps qui était encore maintenant pour toujours, j'étais forcé de m'efforcer à quitter mon langage, déjà confondu parmi la débandade de tant d'autres langages, et à prendre une voix humaine pour dire que je ne me laisserais plus jamais prendre à obéir à une voix qui voulait me forcer à parler avec toute sa trivialité comme avec ma voix la plus profonde. Et je ne pouvais plus m'interdire de ressentir ce que je ressentais au moment lointain où je sentais déjà que la réalité de ma vie comportait plus d'évidente compacité que ma vie réelle pourrait jamais en avoir, et où je savais déjà que s'approchait l'heure où je profiterais de disparaître en sautant sur le premier corps ou la première chose animée, frôlant l'apparente errance de mon esprit, parce que ce n'était pas à moi de chercher à savoir si c'était à cause de marasmeurs comme moi que certains esprits agités dans des corps et des choses disparaissaient sous la fallacieuse simplicité de leur simple apparition, sans rien laisser paraître de leur chaos intérieur, alors que je pouvais déjà comprendre qu'avoir conscience du chaos, c'était avoir le chaos dans sa conscience, et que c'était la conscience chaotique qui amenait à croire au pouvoir de conscience du chaos et à ressentir qu'il y aurait bientôt une belle dernière heure où l'esprit d'un chaos prendrait enfin conscience, qu'il ne serait jamais infiniment conscient de lui-même. Et je ne voulais pas être un enjoliveur ni un destructeur de marasme, employé heure après heure par une invisible employeuse attendant sa dernière heure, avant de réduire ma dimension jusqu'à devenir la minuscule entité sphérique qui s'évaderait en tournant autour de la pensée épaisse déjà morte et rendue à son originaire grosse galaxie d'obèses étoiles agonisantes et inclinée dans la posture pensive des planètes finissantes, parce que chaque fois que je réussissais à sauter par-dessus le mur d'un des féeriques et grandioses plus richissimes nourrissoirs d'atomes ouvriers dont le représentant élisait le roi des noyaux, je comprenais qu'avait refleuri la fleur du temps où j'avais retrouvé moi aussi. Et malgré les anneaux en serrant ce qui me servait de premier cerveau et qui œuvrait sans relâche à exercer le plus fin fuyard de mes deux autres cerveaux en fuite, l'instinct d'accepter aveuglément de devenir une petite roue de métallique spiritualité sereine tournant et creusant dans mon esprit pour y ouvrir la caverne où viendrait se loger au hasard un fabuleux esprit en déroute. Quand je percevais la pluie accueillir des millions de larmes pour leur faire oublier la noirceur boueuse des collines où elles avaient leur source, il me semblait percevoir encore une voix de l'employeuse invisible répéter un ordre que je croyais reconnaître et que j'étais sûr de n'avoir jamais entendu. Et j'entendais cette voix m'ordonner à moi d'avoir déjà été moi-même, et moi seul, pendant des années, le seul œuf de tête sauveur pondu dans un esprit perdu, et de me souvenir que je n'étais pas ressorti de cet esprit uniquement préoccupé de pondaison pendant des millénaires, car aucune poule n'était redescendue par l'échelle des siècles et des siècles pour pondre l'œuf de tête destiné à me remplacer ici dans cet esprit, ni dans un deuxième esprit que je ne pouvais pas nier, connaître aussi bien que le premier esprit, car j'y avais souvent été trop hâtivement pondu et aussi trop grossièrement fendu dans le seul but de ne pouvoir ressembler à aucun œuf fraîchement pondu et qu'ici ou ailleurs, dans un esprit ou un autre, l'heure était déjà de nouveau venue où je devais coûte que coûte et même gratuitement m'enfuir de l'égarement de cet esprit si je voulais réussir à échapper artistiquement à sa perdition. Et oscillant en moi-même, dans un mouvement de balancier, je sentais s'approcher la seconde propice, celle qui était parfois la moins justement choisie et parfois la plus juste de toutes les secondes perdues à la recherche de la justesse de chaque seconde et en quête d'une justice pour toutes les secondes, cette première favorable seconde unique où je pourrais sauter sur le premier être de passage ou la prochaine chose animée passant à ma portée pour m'enfiler dans une bouche ou dans un trou avec l'espoir que cette fois encore, je m'échapperai vraiment tout en demeurant encouragé et renforcé au-delà de toute mesure concevable par l'espoir que je demeurerai encore une fois celui qui n'y arriverait jamais et aussi celui qui était toujours arrivé à s'échapper d'un monde où il n'y avait déjà plus de barrières pour m'empêcher d'essayer de m'enfuir en passant par la gueule d'entrée ou la bouche de sortie d'une bête surnaturelle apprenant à parler deux langues en voyageant tantôt dissimulé dans un corps humain et tantôt dans un autre corps sans rien cacher de son apparence de bête.